Bonjour. L'intitulé de ce colloque, Exposer l'art contemporain dans les monuments historiques, pose effectivement de nombreuses questions qui s'adressent essentiellement aux professionnels de l'art et du patrimoine. Je vous demanderai aussi une certaine indulgence parce que mon propos, qui n'est ni celui d'un conservateur ou d'un responsable de site, ni celui d'un directeur d'art, de centre d'art ou d'un commissaire d'exposition, se situera à la jonction des nombreux échanges qu'au niveau de la région nous pouvons avoir avec ces derniers et qui permettent effectivement de configurer une politique régionale qui tente d'intégrer ces problématiques. La région Rhône-Alpes, comme l'ensemble des régions, ne possède aucune compétence culturelle spécifique, si ce n'est depuis la loi du 13 août 2004, celle de l'inventaire. Donc, toutes les actions qui sont menées en faveur du patrimoine des arts plastiques le sont par la volonté, effectivement, du Conseil régional. En l'occurrence, la région Rhône-Alpes a véritablement souhaité s'investir dans le secteur culturel. Et durant la précédente mandature, l'ensemble des secteurs ont été révisés de façon à cadrer davantage avec les préoccupations des professionnels des secteurs concernés. Donc c'est à travers les politiques régionales en faveur d'une part du patrimoine, d'autre part de l'art contemporain, que la région intervient pour croiser ces deux secteurs. C'est également aussi via ces dispositifs en faveur des jeunes, des publics, des lycéens dont elle a la compétence qu'elle s'efforce d'avoir une action de sensibilisation envers le patrimoine et l'art contemporain. Donc, je vais intervenir en trois points. Tout d'abord, un état des lieux panorama très rapide de la situation art contemporain patrimoine avec une mise en regard de la politique régionale dans ces domaines. Deuxième point, les enjeux, on le verra, qui sont importants au niveau des collectivités en termes de développement du patrimoine, de développement du territoire, de valorisation du patrimoine, de création artistique et de sensibilisation des publics. Et enfin, quelques exemples de commissariats d'exposition. À la Bâtie d'Urfé, demeure Renaissance dans la Loire, où il y a des collections existantes, et au château des Adhémar, dans la Drôme, qui est effectivement devenu un centre d'art contemporain. Une présentation rapide, je ne sais pas si on la distingue très bien, oui, de la région Rhône-Alpes. C'est une région qui comporte 8 départements, un territoire important dont la superficie est équivalente à celle du Danemark, donc 6 millions d'habitants, et effectivement des territoires très très différents. Si on prend cette cartographie de l'art contemporain qui a été réalisée lors justement de la concertation avec les professionnels en Rhône-Alpes, on s'aperçoit effectivement que la plupart des structures de diffusion sont réparties dans les villes-centres de Rhône-Alpes, essentiellement effectivement Lyon, Grenoble, Saint-Étienne. On a aussi sur Chambéry, Annecy et Valence des points importants. Ce qu'on peut dire, c'est qu'en Rhône-Alpes, on pourrait presque établir une liste à la Prévert des structures d'art contemporain. Il y en a énormément. Il y a 3 grands musées avec 3 des grandes collections au niveau national. Le musée de Grenoble, le musée d'art moderne de Saint-Étienne, le musée d'art contemporain de Lyon. Il y a en tout en Rhône-Alpes 106 musées qui sont labellisés musées de France, et sur l'ensemble de ces musées, il y en a qui développent une politique d'acquisition et de présentation de l'art contemporain. Je pense notamment au musée de Valence, au musée de Brou, au musée Château d'Annecy. Donc un véritable travail des institutions muséales. Et à côté de ça, deux grands centres d'art donc, qui sont situés respectivement l'un à Villeurbanne, l'Institut d'art contemporain, et qui gère la collection FRAC Rhône-Alpes, et l'autre donc, qui est un des premiers centres d'art contemporain qui s'est installé en France, le magasin à Grenoble. À côté de ça, effectivement, comme on peut le constater, l'idée, c'est d'avoir effectivement le maximum de petits points sur l'ensemble du territoire. Donc, il y a eu en 2000 un contrat de plan État-région qui s'est mis en place, et à l'initiative de l'État, il a été souhaité effectivement qu'un réseau de diffusion de l'art contemporain se mette en place avec le soutien de l'État et de la région, tant en investissement qu'en fonctionnement. Donc, ça a permis effectivement un certain nombre de lieux qui existaient déjà d'être confortés dans leur existence et un nombre d'autres lieux, effectivement, de se mettre en place. Ce programme du contrat de plan État-région était très précis. Il y avait un cahier des charges exigeant qui demandait une adaptation des locaux aux usages professionnels contemporains, une régularité d'ouverture au public, une programmation en relation avec l'art contemporain, des actions de sensibilisation au public et une mise en réseau au niveau national et transfrontalier. Donc un certain nombre de lieux, on va dire qu'une petite vingtaine de structures se sont véritablement transformées en réseau de diffusion de l'art contemporain. Sur l'ensemble de ces structures, un certain nombre sont installés dans des lieux très divers. Ça peut être aussi bien à Annemasse une maison bourgeoise que à Saint-Étienne l'arrière d'un café ou des maisons de village comme à Saint-Restitut dans la Drôme, à Saint-Paul-Trois-Châteaux. Ça peut également être une école comme à La Coue, etc. D'autres se sont installés dans des monuments historiques. Et effectivement, si on dit deux mots de la situation au niveau du patrimoine en Rhône-Alpes, il n'y a pas, de par son histoire d'identité patrimoniale forte, mais il y a une représentation historique totale de la grotte Chauvet au patrimoine Le Corbusier, qui permet d'avoir effectivement des typologies très très diverses de monuments dans lesquels sont installés des petits centres d'art. Donc, on a un centre d'art qui est installé au château des Adhémars, on le reverra plus précisément tout à l'heure, donc un château médiéval. On a en Haute-Savoie le château d'Arenton, dans lequel est installée une collection privée, la collection Salomon, et qui fait également des expositions temporaires. Le centre d'art, alors il y a un patrimoine fortifié relativement important en Rhône-Alpes. Le centre d'art de la Bastille donc, est installé à Grenoble, sur le site de la Bastille. Et ce qui est intéressant pour ce centre d'art, c'est que le site de la Bastille draine un tourisme très important. Il y a autour de 500 000 visiteurs par an, ce qui permet de bénéficier au centre, effectivement, de visiteurs qui ne seraient pas forcément venus voir l'art contemporain. Donc, c'est installé dans des caponnières. On a effectivement des casemates, un espace très, très particulier que, justement, la direction artistique du centre essaie d'utiliser au mieux en fonction justement de sa programmation artistique. En général, dans ces lieux de diffusion dont je vous parle, il y a effectivement, grosso modo, 4 expositions par an. Ça peut être des expositions monographiques ou des expositions collectives. L'idée étant en général d'alterner des artistes plus reconnus, des artistes repérés et de jeunes artistes émergents. Donc là, c'était Jan Kopp. Là, c'était une présentation collective. Là, on voit une sculpture de Nicolas Moulin, toujours effectivement certaine avec effectivement des réalisations et des productions sur place. Là, on distingue bien effectivement le volume particulier qui fait que les artistes s'adaptent effectivement au volume du fort. On a un autre fort aussi qui est transformé en centre d'art à Francheville, dans le Rhône, le fort du Bruissin, qui lui, effectivement, est très, très, très important comme superficie. Il y a à peu près 2000 m² qui sont utilisables. Là, ça a été une volonté de la ville de transformer ce fort à la fois élément patrimonial et à la fois donc, centre d'art. L'idée, c'était effectivement d'utiliser l'ensemble des casemates qui sont disponibles et d'avoir aussi quelques résidences d'artistes. Un directeur artistique a été recruté. Il y a effectivement eu plusieurs expositions, notamment celle-ci qui a eu lieu durant la Biennale d'art contemporain. Là aussi, le choix des artistes était lié aussi un petit peu à la configuration des lieux. Et le directeur avait réfléchi plus spécifiquement effectivement sur cette question du fort, du patrimoine fortifié, sachant que là on est dans un patrimoine spécifique, c'est les forts serrés de rivière qui ont été construits à la fin du 19e siècle et qui sont restés totalement obsolètes parce qu'en même temps il y a eu une évolution au niveau de la portée des canons, ce qui fait qu'ils n'étaient plus utilisables. Donc toute une réflexion sur ces sites en fait qui ont été construits, qui n'ont jamais été utilisés. L'artiste Trioro a installé un hôtel palinque d'après une photo de Robert Smithson pour montrer effectivement le lien entre cette photo de l'hôtel palinque qui n'avait jamais été terminée et ce fort qui n'a jamais servi. Même chose ici, une invitation à Joris van de Mortel faite par Jérôme Cotinet, le directeur, l'artiste flamand qui a recouvert l'ensemble des ouvertures de briques, symbolisant effectivement l'ouverture, la fermeture, la défense, mais également le seul fait que ce fort ait été utilisé pendant la Seconde Guerre mondiale par les Allemands, et qu'il avait justement obturé pour servir de réserve. Un édifice religieux qui a été aussi transformé en centre d'art à Thonon, sur volonté de la municipalité aussi, la chapelle de la Visitation à Thonon. Là, l'appel a été fait à un commissariat ponctuel de Philippe Piguet, qui travaille effectivement sur des thématiques, l'art, la figure, l'art et le langage. Là, on distingue difficilement, mais c'est donc un travail de Mathias Schmitt, un jeune artiste qui travaillait sur le thème des vanités. On a également des lieux, effectivement, qui ne sont pas des centres d'art, mais qui accueillent des expositions d'art contemporain. Le couvent de la Tourette fut, il y a quelque temps, un centre culturel de rencontre. Il s'avère que ça a été assez compliqué. C'était le seul centre culturel de rencontre qui était encore habité par ses propriétaires. La cohabitation a été difficile et les Dominicains ont repris, effectivement, la gestion des lieux sur le plan culturel et à tout point de vue. Il y avait eu très peu d'expositions parce qu'effectivement, le couvent est en restauration, elle l'est toujours, on en est à sa dernière phase. Néanmoins, donc, un des frères, le frère Marc Chauveau, a souhaité mettre en place des expositions en demandant à un artiste spécifiquement de dialoguer avec le lieu. C'est moins une exposition qu'un dialogue. La première s'est faite l'année dernière à l'occasion du cinquantenaire du couvent de la Tourette. Donc François Morlet avait été invité. Donc, et là, effectivement, les œuvres sont installées de façon à vraiment dialoguer totalement avec l'architecture. Là, c'est dans l'église. Des lieux qui, effectivement, en Rhône-Alpes, ont décidé aussi d'accueillir des expositions. Le Palais Lumière à Évian, qui est un ancien établissement thermal et qui s'est transformé à la fois en salle de congrès avec un beau lieu d'exposition. Là, la dernière exposition qui a eu lieu, c'est à partir des collections contemporaines de Sandretto Re-Rebodingo. Et effectivement, le lieu est en train de s'ouvrir de plus en plus à la programmation contemporaine. Donc la plupart des monuments historiques en Rhône-Alpes appartiennent à des collectivités territoriales. La région elle-même n'est pas propriétaire de monuments historiques. Lors de la seconde vague de décentralisation, quand il y avait eu 176 sites qui avaient été proposés, aucun pour Rhône-Alpes n'était d'un intérêt suffisant pour mettre en place un projet culturel ou autre. Donc, seules, effectivement, les collectivités territoriales sont des associations, effectivement, sont propriétaires de ces lieux dans lesquels il y a des centres d'art. Pour la région, donc, il y a un soutien, indépendamment de ce que je viens de dire, pour les lieux effectivement, de diffusion de l'art contemporain. Il y a un soutien relativement important au niveau du patrimoine, qui se fait effectivement au niveau souvent de la restauration des monuments historiques, mais qui prend en compte effectivement la nécessité pour un site, d'avoir un projet culturel qui permette sa valorisation. Pour poursuivre, les deux grands centres d'art qui sont en Rhône-Alpes sont quant à eux installés dans des bâtiments sans caractère patrimonial reconnu. L'Institut d'art contemporain à Villeurbanne, dont on voit la façade, la verrière qui a été accolée sur le devant d'une école primaire. Là, j'en profite pour rendre hommage à Jean-Louis Mauban, récemment décédé, qui a été un des créateurs du nouveau musée, donc il y a 30 ans, qui s'est effectivement transformé en institut d'art contemporain. Il était un des premiers à exposer Buren, par exemple. Et Nathalie Arginot, sa nouvelle directrice, qui effectivement travaille beaucoup sur l'espace, puisqu'effectivement les salles effectivement peuvent se permettre, enfin peuvent donner lieu à un jeu spatial assez intéressant. Le magasin, donc, qui était effectivement un des premiers centres d'art à s'installer dans une friche industrielle, récupération donc d'un bâtiment de l'exposition universelle. En 1986, Patrick Bouchain, l'architecte, a retravaillé sur les lieux, ce qui fait que là, effectivement, pour les expositions d'art contemporain, on a une configuration qui est très très spécifique, puisqu'on a cette grande rue qui permet effectivement des œuvres de dimension monumentale et un espace modulable sur le côté. Là, on voit une œuvre d'Abdessemed, il y avait un grand cercueil qui était dans la rue parallèlement. Autre effectivement lieu qui, enfin autre manifestation qui a élu domicile dans un bâtiment industriel, c'est la Biennale d'art contemporain qui s'est installée donc à la Sucrière sur le quai Rambaud à Lyon, un bâtiment industriel très important dans un quartier qui est en plein renouvellement urbain. Donc tout ça pour dire aussi, comme il a été rappelé ce matin, que la notion de patrimoine telle qu'on l'entend à présent ne se limite plus aux seuls monuments classés ou inscrits, mais concerne aussi des bâtiments qui identifient un territoire, une ville, comme c'est le cas en l'occurrence. Et comme on est dans un cadre urbain de plus en plus éclaté, on constate que la recherche d'identité, de racines, transforme des édifices architecturaux sans qualité particulière, effectivement, en bâtiments ayant une forte valeur d'ancienneté. Quelques mots maintenant sur les enjeux pour la collectivité territoriale. Je suis désolée, j'essayais d'aller un petit peu plus vite. Tout d'abord, au niveau du développement du territoire, ça c'est un point très très important. Le soutien conjoint à la création et au patrimoine donc, est vraiment un point stratégique de développement du territoire dans une optique à la fois économique et sociale. L'approche du contrat de plan État-région insistait justement sur les spécificités territoriales de l'urbain, du rural et du nécessaire travail de coopération entre les grandes institutions et les plus petites structures. C'est le cas donc, en ce qui concerne l'Institut d'art contemporain, donc le FRAC, qui montre sa collection dans des monuments historiques repérés sur le territoire, avec une volonté, bien sûr, de la collectivité. Là, on était dans la Drôme, ici, dans l'Ain. Un travail qui montre, et Nathalie Arginot le remarquait, effectivement, que la régularité et la qualité des expositions amènent les municipalités à une prise en compte plus importante du patrimoine. Donc on va dire qu'il y a un lien relativement positif aussi en faveur de la valorisation du patrimoine. Le patrimoine qui est considéré comme effectivement un élément de valorisation et d'identification territoriale très important. Christelle Burgard, conservateur du patrimoine et responsable des châteaux de la Drôme, disait que justement pour le Conseil général, le fait d'installer un centre d'art au château des Adhémar, c'était la volonté de jouer sur les ruptures entre création et monument historique et donner une image dynamique et audacieuse des sites. Donc c'est vraiment une volonté des collectivités que de donner cette image particulière. Autre chose aussi, bien sûr, la mise en exposition d'œuvres d'art contemporain dans un site patrimonial n'est pas anodine. Il a été constaté aussi que les visiteurs qui étaient attirés par un site historique pouvaient paradoxalement manifester deux types de comportements déceptifs. Le fait de ne pas trouver effectivement de collections anciennes dans le monument historique, ou alors de trouver des œuvres contemporaines trop discrètes, entre guillemets. Autre point important, celui de la sensibilisation des publics. Hein. On parle de l'horizon d'attente des publics et il est vraiment nécessaire qu'il y ait une médiation. Donc ça, c'est une demande de la collectivité région chaque fois qu'il y a un projet qui se met en place, qu'il y ait cette médiation qui suive et qui, en amont, précède le projet. Il y a aussi des dispositifs très importants au niveau des lycéens. Il y a ce qu'on appelle la carte EMRA qui permet aux lycéens, avec un avantage art et savoir, d'accéder à des visites guidées aussi bien dans les monuments historiques que dans les centres d'art. C'est malheureusement un avantage qui est beaucoup moins utilisé que l'avantage cinéma, lecture. Donc il y a un travail qui doit être fait de façon importante de ce point de vue-là. Et il y a aussi donc des projets qui sont menés avec l'éducation nationale et qui permettent en amont d'une année scolaire d'accompagner un projet culturel qui serait mené avec un centre d'art ou un monument historique. J'en profite pour faire une toute petite digression, mais je pense que c'est important dans ce cadre-là. Les questions de conservation préventive et de restauration de l'art contemporain sont très importantes. La région a un patrimoine art contemporain dans les établissements scolaires. On vient de faire un inventaire en lien avec le CICRP à Marseille des 300 œuvres d'art qui sont dans les monuments scolaires, dans les édifices scolaires. Il y a tout un travail effectivement d'entretien à faire une fois que l'œuvre est installée pour que justement la sensibilisation des élèves se fasse dans de bonnes conditions. Très rapidement, quelques commissariats pour effectivement montrer comment l'art contemporain s'est installé dans des monuments en Rhône-Alpes. La Bâtie d'Urfée dans la Loire, qui est un édifice un peu plus ancien, mais qui est connu effectivement pour l'aspect renaissance qui lui a été apporté par Claude d'Urfée, qui était l'ambassadeur de François Ier et qui effectivement a permis dans cette demeure d'avoir effectivement une qualité renaissance italienne extraordinaire. Il y a eu une exposition récemment, L'Oculus Oculi, réalisée par Bernard Rudiger sur invitation de l'Institut d'art contemporain de Villeurbanne. L'artiste a souhaité, à partir d'une de ses œuvres, justement, donner une focale sur le bâtiment et travailler aussi en lien avec la personnalité de Claude d'Urfée et non plus d'Honoré d'Urfée, puisque la bâtie est connue surtout par rapport au roman pastoral. Donc il y a eu tout un travail historique qui s'est fait, effectivement, et qui a permis de transformer les visites patrimoniales qui existaient avant avec, effectivement, ce regard contemporain sur Claude d'Urfée. Donc, je vous lis juste le propos de Bernard Rudiger. Ici, au château de la Bâtie d'Urfée, Petrolio a retrouvé un horizon qui lui est naturel, comme celui de la cité, à la différence qu'il ne s'agit pas d'un horizon général et neutre. La bâtie de Claude d'Urfée est une construction, elle répond à une idée, à des projets, dessins, lieux mémoriels, capables de donner à voir des formes qui réagissent, s'ajustent et résistent à l'œuvre contemporaine. Donc cette exposition, effectivement, proposait un dialogue imaginaire à partir des collections du Musée d'art moderne de Saint-Étienne et de l'Institut d'art contemporain, et c'était aussi bien en intérieur qu'en extérieur. Donc là, effectivement, on est dans un lieu habité. Cette année, le Musée d'art moderne a poursuivi effectivement ce dialogue avec la collection de la Bâtie d'Urfée sur la thématique des perspectives de la Renaissance. Dernière visite, le château des Adhémar à Montélimar. Le château des Adhémar, qui est une propriété du Conseil général de la Drôme, avec les deux autres châteaux, Suze-la-Rousse et Grignan, et qui fait appel, donc, effectivement, qui est devenu un centre d'art dans les années 2000, qui fait appel à des commissariats externalisés. Là, c'est Isabelle Bertolotti, conservateur au Musée d'art contemporain de Lyon, donc, qui a proposé une programmation. Donc, cette programmation, effectivement, le fil rouge, c'est la confrontation avec le bâtiment. Là, c'était une invitation de John Armleder, qui, effectivement, avait vraiment souhaité lui-même venir travailler dans ce site, et qui a produit toute une série de néons pour effectivement mettre en valeur les volumes du château, deux grandes salles, plus une plus petite salle au dernier niveau. Une autre jeune artiste qui a été invitée pour, comme je vous le disais, pour alterner effectivement le type d'exposition, Delphine Ballet, qui travaille sur des histoires personnelles, une artiste photographe, et là qui a pu effectivement organiser tout un parcours de visite dans le château à partir de cette histoire, en incluant, c'était la première fois qu'elle pouvait le faire justement, un mobilier qui permettait de retraduire véritablement l'atmosphère de ses photographies. Une très belle exposition qui avait eu lieu au château, un artiste italien, Loris Cecchini, qui effectivement a su très bien s'adapter au lieu. Là, donc, il y a eu tout un système de câblage, parce que là, effectivement, il y a des contraintes qui sont vraiment très, très importantes, fenêtres à meneaux, escalier exigu, etc. Donc là, il a utilisé effectivement le système de tringles qui était au plafond, et l'œuvre a été reconstituée sur place. Ce sont des perles. Là aussi, tout un travail qui était destiné à mettre en valeur, via des reflets, les murs du château. Une cloison qui a été très qui s'appelle Ondulante, et qui effectivement a été très compliquée à installer, puisqu'il a fallu justement la faire passer par le dernier niveau, puisqu'elle n'a pas pu être réalisée directement sur place. Là, c'est un clin d'œil pour dire que l'extérieur aussi des monuments historiques se prête souvent effectivement à l'utilisation et dire à la valorisation par les artistes. Là, c'est un clin d'œil de Lilian Bourgeat qui travaille sur des jeux d'échelle. Pierre Malfette, un jeune artiste qui était présent à l'exposition universelle de Shanghai, là, qui a travaillé sur les trois niveaux, avec au premier niveau un nuage de verre qu'il a installé là dans le château. Une œuvre qui a été réalisée spécifiquement et qui est un petit peu complexe sur le deuxième niveau. Et enfin, il a terminé avec l'arbre et l'olière, ce lien, puisque au dernier niveau, il y a un panorama très, très important sur l'ensemble de la ville, sur effectivement ce jeu avec le côté physique et le panorama. Voilà, je voulais juste terminer sur une... Pour conclure, en citant Pistoletto, interviewé par Philippe Dagen dans le Monde en 2008, à l'occasion d'une exposition réalisée dans un village de Seine-et-Marne, à Boissy-le-Châtel. L'exposition se nommait Binayat, infini en persan. Pistoletto explique que des artistes tels Alberto Burri et Lucio Fontana l'ont incité à voir plus loin. Il a ainsi eu envie d'aller vers le miroir. C'était une nouvelle matière et une nouvelle perspective qui n'est plus celle de la Renaissance. Dans le miroir, nous voyons ce qu'il y a derrière nos épaules. Le regard fait demi-tour. Il reprend conscience de ce qui vient par derrière aussi. C'est une double vision à 360 degrés. Tous ces éléments, j'ai cherché à les rendre dynamiques, à les faire entrer dans la vie.